Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est à la fois une joie et un honneur pour moi d'être au milieu de vous. Une joie parce que je cherche Monique des yeux, elle n'est pas là. J'étais donc, nous étions notre famille avec John et Sarah Perkins, Esther et Gérald de Turquet et Monique Le Guenec au premier culte de l'église baptiste qui a eu lieu. Vous ne savez peut-être pas, mais place de Jode. Et nous sommes restés quelque temps dans cette église et puis, péché de jeunesse certainement, nos voix se sont séparées mais notre cœur est resté attaché. Je vous le dis franchement, sincèrement, mon cœur est attaché aussi à cette église, comme à d'autres d'ailleurs. Voilà, donc et puis on n'est pas loin, on habite effectivement, notre église est de l'autre côté de la voie de chemin de fer. Mon épouse n'a pas pu se joindre à moi ce matin hein, parce qu'elle a des activités dans l'église qui l'ont retenue, c'est ainsi. Et puis... Mon cœur est aussi attaché ici à cette église parce qu'il y a parmi vous, je pense qu'elle est sortie, Karine, et c'est par la prédication de son papa que je me suis converti. Je suis rentré une fois, moi qui étais rebelle à l'évangile, la première fois que je suis rentré dans une église évangélique, j'en suis sorti converti. Merci Seigneur. Au premier message, donc je crois que c'est important aussi parfois de bien préparer ce qu'on a à dire parce que le Seigneur peut toucher les cœurs de cette manière-là. Voilà, ce matin il a été dit bien des choses qui nous rapprochent de ce que j'ai à vous dire ce matin. On va faire une lecture dans le livre des psaumes et on lira le psaume 13. Psaume 13. Jusques à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Je lis dans la version du semeur. Hein. Jusques à quand seras-tu loin de moi? Jusques à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusques à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, éternel mon Dieu, et réponds-moi. Viens réparer mes forces. Sinon, je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira qu'il a gagné mes oppresseurs, se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en ton honneur, ô éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. Donc ce psaume commence par un certain nombre de questions, ou d'exclamations plutôt, où il est dit « Jusques à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusques à quand seras-tu loin de moi ?» La version français courant dit « Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier ? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir ?» Ceux qui ont cette version peuvent le trouver. Il est dit encore « Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin chaque jour ?» Mais moi, au verset 6, hein, c'est le verset 6 aussi qui nous intéressera tout à l'heure, j'ai compté sur ta bonté. Il a été question ce matin à plusieurs reprises dans les chants de la bonté et de la grâce de Dieu. Ésaïe dit mon sort, au chapitre 40, Ésaïe dit mon sort échappe à l'Éternel. Et la version en français courant dit le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive, mon bon droit échappe à mon Dieu. Eh bien, je pense que peut-être pour certains d'entre vous, c'est des paroles, des propos qu'il nous arrive de tenir. Hein, pourquoi, Seigneur, pourquoi, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse hein, et ce thème parcourt la Bible, on le retrouve bien sûr dans bien d'autres passages. Nous pouvons avoir le sentiment que nous sommes oubliés de Dieu, sentiment de ne pas être entendu quand, bien sûr, tout va mal, que rien ne change et que pourtant on continue. On prie, on dit « Seigneur, tu vois, je prie sans cesse, je marche dans tes voies » et rien ne se passe pour autant. Et la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est et qui est sous-jacente de ce que nous avons lu, c'est « Où es-tu, Seigneur ? Où es-tu, Seigneur ?» Samuel m'avait demandé de donner un titre, est-ce qu'il y avait un titre à la prédication d'aujourd'hui ? Je lui ai dit « Oui, c'est « Où es-tu, Seigneur ?» éventuellement, mais ce n'est pas le thème que je retiendrai, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc c'est jusqu'à quand, hein, la question que nous pouvons nous poser et que nous posons parfois, c'est jusqu'à quand, Seigneur, devrais-je supporter telle difficulté ou quand interviendras-tu enfin ? Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'as oublié. Il y a tellement longtemps que je prie pour telle situation alors que rien ne change. Pourquoi te caches-tu ? Me prends-tu pour ton ennemi ? C'est ce que dira Isaïe dans un autre passage. Seigneur, pourquoi n'agis-tu pas ? Pourquoi ne réponds-tu pas ? Habacuc, lui, va plus loin puisqu'il dit « Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je appeler au secours sans que tu ne m'écoutes ? Jusqu'à quand vais-je crier à la violence sans que tu me délivres ?» Et la version français courant dit « J'ai crié et tu n'écoutes pas. » N'est-ce pas là, parfois, les sentiments que nous pouvons avoir hein, ou une parole qui peut être au fond de notre cœur « J'ai crié et tu n'écoutes pas. » C'est donc une attitude que nous pouvons avoir. Ce qui sous-entend que ces appels ou ces interrogations sont le reflet de notre souffrance, de difficultés que nous pouvons porter, bien entendu, hein, et qui sont tout à fait réelles, bien évidemment. Bien, face à ces questions ou à ces exclamations, quoi, hein, la Bible n'apporte pas nécessairement une réponse toute faite, hein, ne résout pas les problèmes dans l'instant. Hein. Elle ne nous dit pas que dans la minute qui suit une difficulté, on va avoir se résoudre les problèmes. Quoi, hein. On a un Dieu qui n'est pas comme ces distributeurs automatiques qu'on trouve dans les gares ou à certains endroits où on met une pièce et à la sortie, on met une prière hein, et à la sortie, on a la réponse. On n'en est pas là. Mais, et je veux dire, les événements de tous les jours le montrent, hein, ne serait-ce que voir ce qui se passait en Irak auprès des chrétiens, par exemple, ou des chrétiens qui sont emprisonnés. Nous avons correspondu avec du temps de la Roumanie, avec des chrétiens qui étaient restés emprisonnés jusqu'à 20 ans à cause de leur foi. Vous voyez, jusqu'à 20 ans à cause de leur foi. Donc, nous aimerions parfois, effectivement, avoir une réponse immédiate, mais le Seigneur a un autre plan pour nous, un autre plan, et c'est ce que nous allons essayer de découvrir au travers d'une lecture, une lecture qui peut sembler un petit peu éloignée de notre préoccupation, mais vous verrez qu'elle ne l'est pas tant que cela, au final. Elle est dans Exode au chapitre 33. C'est la discussion, une discussion entre Moïse et Dieu, au moment où le peuple a franchi la mer Rouge, il se retrouve en plein désert, au pied du mont Sinaï, et là, Moïse va monter donc sur la montagne d'Horeb à la rencontre de Dieu, et le passage que nous allons lire donc, est la conversation de Moïse avec Dieu. On va commencer donc 33 à partir du verset 11. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Noum, restait dans la tente. Alors, c'est là que ça commence. Moïse dit à l'Éternel, « Écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, « Je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Eh bien, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. Alors j'aurai vraiment ta faveur et puis considère aussi que cette nation, c'est ton peuple. » Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. » Moïse répondit, « Si tu ne viens pas avec toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. À quoi reconnaîtront que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple, sinon si tu marches avec nous et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples de la terre ? » Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de demander. » Là-dessus, Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Ou d'autres versions disent, « Je veux, montre-moi ta gloire. » J'ai perdu le fil. Oui, et Dieu lui répondit, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer, et je proclamerai devant toi qui je suis. Je ferai grâce à qui je ferai grâce. » J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, mais tu ne pourras pas voir ma face. Nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi, tiens-toi debout sur ce rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis, je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais personne ne peut me voir, ne peut voir ma face. Pardon. Il est dit ici, donc, que, une chose importante, hein, il est dit, il y a ici un lieu près de moi, au verset 21, un lieu où tu te tiendras près du rocher, et quand ma gloire passera, je te couvrirai de ma main. Donc Dieu lui dit, je ferai passer devant toi ma gloire et je te couvrirai de ma main. Voici un lieu où tu te tiendras. Donc Moïse, dans ce passage, en fait, nous apparaît un peu comme craintif. Il doute, hein, il doute que de sa capacité, bien sûr, à pouvoir conduire ce peuple de plusieurs millions de personnes. Il doute aussi de pouvoir conquérir ce pays, hein, d'aller vers l'inconnu. Et surtout, il doute de la présence de Dieu à ses côtés tout le temps. Lui, il connaissait le désert. Hein, Moïse l'avait parcouru avec ses moutons et il savait dans quel enfer il allait aller. Et là, il dit, Seigneur, si tu ne nous accompagnes pas, on ne subsistera pas. Oui, donc Moïse a besoin, Moïse est dans la crainte, il a besoin. Et il dit, Seigneur, je ne suis pas sûr que tu seras avec moi. Je ne suis pas sûr que lorsque tu auras à me guider vers cet inconnu, j'aurai vraiment ta présence à mes côtés, et qui me viendra en aide si la tâche me submerge. Donc, dans ce passage qui me semble un peu émouvant, si vous voulez, hein, le grand, grand Moïse, merci, celui que l'Éternel connaissait. Celui que l'Éternel connaissait face à face paraît en quelque sorte ici un peu faible et incertain, et il a besoin d'être rassuré. Seras-tu à mes côtés? Comment saurais-je que tu es là, que tu marches avec nous? Comment saurais-je que tu ne nous oublies pas en route? Parce qu'il en connaissait les dangers. Et puis, donc, la question sous-jacente, c'est vrai, qui rejoint un peu celle du psalmiste, c'est notre destinée échappera-t-elle à l'Éternel? Est-ce que l'Éternel ne va pas nous oublier au milieu du guet? Et Moïse, donc, demande une preuve supplémentaire à Dieu, et il lui dit, je voudrais voir ta gloire. Je voudrais voir ta gloire. Et étrangement, Dieu ne dit pas non. C'est assez surprenant. Dieu ne refuse pas sa requête. Hein. Il accède, il accepte. Et il lui dit, à mon avis, deux choses qui sont importantes pour nous. La première, c'est qu'il va lui dire, ce que tu verras de ma gloire, c'est ma bonté. Ce que tu vas voir, ce que je veux te laisser voir de ma gloire, c'est seulement ma bonté. Premièrement, il lui dit, c'est donc ma bonté. C'est sa bonté que Dieu laisse entrevoir. Ça n'est ni sa magnificence, ni sa splendeur, ni sa grandeur, hein, puisqu'il est dit que l'homme ne peut le voir et mourir. C'est sa bonté, sa clémence, puisqu'il parle de grâce, et sa miséricorde. Il dit, je ferai passer devant toi, donc sous-entendu faible, hein, pécheur, toi qui ne mérites rien, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, toi qui es craintif, je ferai passer devant toi ma bonté. Ma bonté, donc mon amour, et la grandeur de mon nom. Donc vous voyez, la grandeur du nom de Dieu est associé à sa bonté. Donc, dans ce passage, il est sous-entendu, bien entendu, que Dieu ne va pas régler tous les soucis et tous les problèmes de Moïse. Il ne lui dit pas, tu verras, tu n'auras aucun problème, aucun souci, tout se passera bien, et les événements montreront le contraire. Mais par contre, il lui dira, tu pourras toujours compter sur ma bonté, celle que tu as vue sur la montagne. Tu pourras toujours compter sur ma bonté, celle que tu as vue sur la montagne. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque qui lui dit, qui me semble importante, parce qu'elle va nous ramener à Jésus, hein, c'est ça qui est important, il y a près de moi un emplacement, un rocher où tu te tiendras. Il y a près de moi un rocher où tu te tiendras. Et donc, voilà où Moïse va goûter aux délices de l'Éternel, blotti au creux d'un rocher, couvert par la main de Dieu. C'est en effet, bien sûr, par pure grâce que Dieu se révèle à Moïse. Mais c'est surtout la même chose que Dieu a dit à Jésus. Il lui a dit, voilà, tu te tiendras là, sur cette montagne, et c'est de là que le monde entier goûtera à ma bonté. Hein, c'est du rocher du calvaire que le monde entier pourra goûter à la bonté de l'Éternel à leur égard. Et donc, Jésus à la croix, hein, a bien entendu déployé toute la bonté, toute sa bonté à notre égard. Et c'est donc le lieu où nous avons la certitude que Jésus se préoccupe de ma destinée. Parce qu'on revient toujours à la question du départ, Seigneur, hein, ma destinée, es-tu sûr, ne m'as-tu pas oublié ? Donc c'est à cet endroit que Jésus va répondre à cette question, jusqu'à quand devrais-je me ronger de chagrin, jusqu'à quand m'oublieras-tu sans cesse ? J'ai crié et tu ne m'écoutes pas, comme le disait Habacuc, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier ? Pourquoi je peux dire cela ? Eh bien parce que toutes ces questions étaient probablement celles que se posaient les contemporains de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Et là, je vais faire référence à votre mémoire biblique. Hein. La première question auquel la Bible nous invite, hein, c'est cette question le jour d'un repas de noces. L'organisateur du repas s'est posé cette question, bien qu'elle n'apparaisse pas directement dans la Bible. Il s'est probablement dit, comment finirons-nous ce repas sans vin ? Voilà une question. Et là, Jésus a apporté une réponse à cette question, bien évidemment. Et puis, parmi les autres questions que Jésus a entendues, auxquelles il a répondu, c'est qui ouvrira mes yeux, hein, qui ouvrira mes oreilles, ma bouche, pour que je sois comme les autres ? Qui viendra me plonger dans la piscine ? Oui, autour de la piscine, il y avait plein de monde, certainement. Et Jésus a été vers un seul d'entre eux, celui qui se posait probablement plus que les autres cette question, qui me plongera dans la piscine, puisqu'il nous a dit, il n'y a personne pour me plonger dans la piscine. Et puis, bien d'autres questions, hein, Marie dira, si tu avais été ici, Seigneur, donc qui me rendra mon frère qui est décédé ? Ou bien, lorsque Jésus a croisé le chemin de la veuve de Naïn, hein, cette dame disait, mais qui me rendra mon fils mort ? Qui me rendra, moi qui suis veuve ? Ou bien encore, cette femme qui est emmenée à la lapidation, hein, s'est peut-être dit, mais qui me délivrera de la lapidation qui m'attend ? Qui m'en délivrera, etc. Et on pourrait donc continuer, hein, penser à cette femme syrophénicienne qui disait, mais qui délivrera ma fille des liens, des chaînes par lesquelles l'ennemi le tient enchaîné ? Et d'autres questions ainsi, qui me délivrera de cette perte de sang, etc. etc. Vous voyez ? Et Jésus, qui connaissait les pensées secrètes, a répondu à toutes ces questions. Il a parcouru la terre, la terre de Jérusalem et des environs, pour aller à la rencontre de ces personnes. Ce n'est pas par hasard qu'il a croisé la veuve de Naïm. Ce n'est pas par hasard qu'il a été à Sidon, dans le territoire de Tyr et de Sidon, pour rencontrer une femme dont la fille était captive de l'ennemi, etc. Donc, nous pouvons douter, mais Jésus connaît les pensées de nos cœurs, et lorsque nous disons « Où es-tu, Seigneur ?», nous ne sommes pas oubliés. Nous pouvons être certains qu'à la croix, Jésus connaissait toutes nos pensées, connaît toutes nos pensées, et c'est pour ça que, sachant ou connaissant toutes nos souffrances et les souffrances de ceux qui invoquaient son nom lorsqu'il était sur la terre, ou qui invoquaient le nom de l'Éternel, il a été à leur rencontre individuellement, pour leur manifester quoi ? Sa bonté. Oui, la même bonté que celle qu'il a découvert, que celle qui s'est manifestée sur la montagne Horeb. Alors, certains priaient probablement depuis longtemps, et Dieu leur a dit, au moment favorable, je vous ai secouru. Donc Jésus est ce rocher où tu te tiendras, nous devons nous tenir blottis au creux de sa main, pour goûter à sa bonté dans les difficultés. Pourquoi dis-tu Jacob, dit Esaïe, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant Dieu. Ne le sais-tu pas, c'est Dieu qui parle, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc il donne de la force pour quoi faire ? Pour nous renouveler et continuer. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu ne dit pas « je vais régler tous tes problèmes demain matin ». Mais il va nous dire « là, au creux du rocher, au pied de la croix, tu trouveras la force et par ma bonté, tu trouveras la force de continuer et de persévérer ». Donc il donne la force. Et c'est pour ça que le psalmiste, à la fin du psaume 13 qu'on a lu, Il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. Oui, même dans la difficulté, dans la souffrance, dans les obstacles qui peuvent encombrer notre vie, nous pouvons toujours, toujours compter sur la bonté instantanée de Dieu. Et cette bonté, bien sûr, se renouvelle chaque matin, comme nous l'avons lu, comme cela nous a été dit tout à l'heure. Alors, pour conclure, donc, si notre souffrance nous paraît, j'allais dire, insupportable, insurmontable, si on ne voit pas le bout du tunnel de nos difficultés, si on pense que Dieu nous a oubliés, ce qui est le cas, si même peut-être il y en a parmi nous qui disent « si Dieu existait, alors il me viendrait en aide », eh bien, il faut savoir que dans chacune de nos situations, nous ne sommes pas oubliés. Nous ne sommes pas oubliés. Jésus en a apporté la preuve lorsqu'il était sur terre et il en a apporté la preuve à la croix. Et il donnera, comme il l'a promis, d'une part de la force à celui qui est fatigué par la bonté. Il va augmenter notre vigueur, par la vigueur de celui qui tombe en défaillance, comme dit l'Écriture, et qui se confie en l'Éternel. Et donc, auprès de lui, et la force, les forces nouvelles pour continuer. Ce que nous demande donc le Seigneur, c'est une seule chose, je dirais presque, hein, c'est de se tenir au creux du rocher, couvert par sa main, et là, nous goûterons à sa bonté. Tenons-nous, réfugions-nous, hein, réfugions-nous au creux de ce rocher dont il est parlé, au pied de la croix, couvert par la main de Dieu, et là, nous goûterons sa bonté. Nous goûterons également au repos que Dieu peut donner dans la difficulté, hein, et nous goûterons également à sa paix, qui permettront de continuer, en attendant que par sa grâce, bien sûr, il accorde la délivrance que nous attendons. Je n'annonce pas une défaite, bien évidemment. Je dis simplement que si, comme il est dit de la promesse, comme il est dit de la prophétie, si la promesse tarde, attends-la bien évidemment, parce que tout est possible à Dieu. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que nos sentiments sont trompeurs. Seigneur, tu m'as oublié. Non. Relisez Job. Job, lui aussi, il a dit, j'ai l'impression d'être oublié de Dieu. Non, il me l'a même dit, Dieu est contre moi. Non, Dieu n'est pas contre nous. Non, nous ne sommes pas oubliés de Dieu. Ce sont simplement nos sentiments, voire nos pensées, notre voix intérieure, ou même l'ennemi, hein, qui va nous dire, le Seigneur t'a oublié. Pourquoi ? Qui va nous amener à se poser cette question, Seigneur, pourquoi m'oublies-tu sans cesse ? N'écoutons pas ces mensonges, n'écoutons pas nos sentiments qui sont trompeurs. Demeurons dans la fidélité au creux du rocher, au pied de la croix de Jésus, couvert par la main de Dieu, et nous goûterons d'une part à sa bonté, et d'autre part, il renouvellera nos forces pour que nous puissions continuer. On va prier. Seigneur, bien souvent, il nous arrive de nous poser cette question, pourquoi ? Pourquoi telle situation ? Pourquoi, Seigneur, tu n'agis pas pour nous délivrer, nous débarrasser de tels problèmes, de telles difficultés, que ce soit la maladie, le travail, le chômage, la solitude ou que sais-je ? Seigneur, ce matin, tu nous appelles à revenir repentant au pied de la croix pour te dire, Seigneur, j'ai oublié que tu étais bon. J'ai oublié que même dans la difficulté, tu avais de la bonté à mon égard et tu veux la manifester encore. Seigneur, s'il te plaît, viens passer du baume sur mon cœur, viens m'aider à me tenir au creux de ce rocher, au pied de la croix, couvert par ta main, pour que je reçoive la force de continuer, la force d'aller de l'avant, en goûtant aux délices de ta bonté dans la difficulté.